Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h20, c'est un grand spécialiste en géopolitique qui connaît bien la situation et les problématiques évidemment du Moyen-Orient. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir pour nous éclairer, c'est vrai, sur ce qui se passe en ce moment en Israël et dans les territoires palestiniens. Alors, en 3 jours, la situation s'est embrasée, menace de se transformer en une nouvelle guerre aux conséquences multiples, on va en parler. Et on a assisté déjà à des lynchages dans les deux camps. Celle de cet homme, d'abord en direct à la télévision, qui a beaucoup choqué en Israël, qui est a priori arabe, passé à tabac par des dizaines de juifs, issus, dit-on, de l'extrême droite au sud de Tel Aviv. Comment d'abord vous réagissez à ces images ?
Ah ben, je réagis très mal parce que ce serait une première en Israël. Hein. Je vous rappelle que l'État a été créé en 48 et que sauf quelques jours de violence plus ou moins spontanée en 2000, donc autrement dit au début de la deuxième intifada, hein, extrêmement meurtrière elle-même, voilà c'est ça, mais il n'y a jamais eu en Israël de véritable prodrome d'une guerre civile, en dépit effectivement de la présence de deux grandes communautés, on va les appeler comme ça, les juifs et les arabes.
Bon. Cette menace de guerre civile, elle est réelle aujourd'hui, Frédéric Ancel ?
Je crois pouvoir affirmer que non, ou plus exactement qu'il y a peu de chances qu'elle se produise. D'abord parce que depuis 48, les 20% de citoyens arabes israéliens ont toujours été extrêmement loyaux à Israël. Pour l'essentiel d'ailleurs, ils bénéficient de quasiment tous les mêmes droits et devoirs civiques. On l'a encore vu récemment aux élections. Et puis, sur le plan politique et social, si vous êtes arabe israélien et que vous regardez une carte du Moyen-Orient, vous réfléchissez à deux fois avant de vous dire, bon, puisque c'est comme ça, je n'aime pas l'État et sa politique, je m'en vais. Oui, vous partez où ? Donc si vous Je crois
c'est un
encore
équilibre précaire tout de même dans ces communautés entre les arabes musulmans pour certains, arabes juifs pour d'autres, chrétiens, il en reste encore quelques-uns, et puis tous les Israéliens de confession juive. C'est un équilibre précaire quand même entre toutes ces communautés.
Oui, c'est une mosaïque à l'approche orientale, j'allais vous dire. Hein, effectivement, et ça marche plutôt pas mal au regard du Moyen-Orient, encore une fois, hein, ces 50 ou 60 ou 70 dernières années. Sauf que là, vous avez la conjonction de deux facteurs défavorables. Un, le vide diplomatique total depuis 20 ans. Vous vous rendez compte que 35% des Palestiniens et environ 25% des Israéliens n'ont jamais connu de processus de paix. Donc un vide diplomatique extérieur et un vide politique intérieur. Voilà 2 ans que les gouvernements israéliens successifs sont démonétisés, qu'ils ne parviennent pas à réaliser de véritables coalitions, et c'est vrai encore pour Netanyahou là, ces derniers jours. Et du côté palestinien, Mahmoud Abbas, qui n'avait pas organisé d'élections depuis 15 ans, en organise et les annule, de manière extrêmement brutale. Donc l'expression de la jeunesse israélienne et de la jeunesse palestinienne, elle a été totalement bloquée.
C'est une escalade de violence, on utilise ce mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, à laquelle on assiste, qui paraît sans fin. Près de 1500 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, auxquelles Israël riposte par des frappes, avec un lourd bilan, plus de 80 morts au moment où on se parle, palestiniens dont des enfants, 7 côté israélien, des centaines de blessés. On a du mal à imaginer comment tout cela va s'arrêter maintenant que c'est lancé.
Alors c'est ce qu'on appelle un conflit de basse intensité, et le problème d'un conflit de basse intensité, c'est-à-dire qu'il fait entre guillemets, peu de victimes par rapport à d'autres conflits en Afrique ou en Asie ou au Moyen-Orient par exemple, c'est que une fois que ça s'arrête, une fois qu'une secousse, une énième secousse de violence s'arrête, s'estompe, ben on passe à autre chose. C'est-à-dire que le conflit israélo-palestinien, et je le dis depuis des années et je le déplore, ce conflit a été relégué par les grandes chancelleries du monde, et y compris par les chancelleries arabes, au rang de simple contentieux. Autant un conflit, il peut être urgent de le régler, autant un contentieux, c'est local et c'est pas urgent.
Y a un élément nouveau quand même dans cette donne aujourd'hui, ce sont le rôle de certains pays arabes, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Maroc, le Soudan, qui ont signé des accords de normalisation avec l'État hébreu et qui se trouvent aujourd'hui en quelque sorte en porte-à-faux face au retour au premier plan de ce conflit. L'importance et l'influence des pays arabes qui parlent beaucoup mais qui font peu finalement.
Ah ben non seulement qui font peu, mais qui ont jamais réellement défendu ce qu'on appelle la cause palestinienne, ou alors de manière totalement symbolique.
Ça change la donne, cet accord avec l'État hébreu, cette normalisation ?
Alors moi, je ne crois pas. C'est-à-dire que ces États ont obtenu de Donald Trump, il y a quelques mois de cela, d'abord de quoi estomper leurs critiques vis-à-vis d'Israël. Je rappelle que le Maroc a reçu en contrepartie de sa reconnaissance d'Israël la reconnaissance par Washington de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Je rappelle que les Émirats Arabes Unis ont obtenu une escadrille de F-35, de chasseurs-bombardiers, bon, etc. Et puis du côté palestinien, bah, on s'aperçoit que décidément, il n'y a réellement aucun vrai allié dans la région et au-delà. Et par conséquent, vous avez là encore ce que j'appelais un vide diplomatique et un vide politique qui crée un climat délétère.
Alors, il y a le rôle aussi du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a qualifié Israël d'État terroriste cruel. Est-ce qu'il souhaite d'une certaine manière avoir une influence sur la zone et récupérer cette colère palestinienne ?
Ah, complètement. Bah, l'instrumentalisation, elle est totale. D'abord, non seulement de la cause palestinienne, mais d'un certain nombre de conflits dans la région. Monsieur Erdogan a pris fait et cause pour les frères musulmans, les Irouanes, donc les durs hein, au sein du monde musulman, et en réalité des islamistes. Mais ça a été vrai dès le printemps arabe, hein, qui a prévalu il y a 10 ans maintenant. Donc M. Erdogan soutenait systématiquement les frères musulmans. Or, le Hamas, qu'est-ce que c'est sinon la branche palestinienne des frères musulmans? J'ajoute que l'allié privilégié dans la région aujourd'hui, la Turquie, bah, c'est le Qatar. Et le Qatar soutient qui? Les frères musulmans.
Est-ce qu'on peut imaginer, Frédéric Ancel, une intervention au sol de l'armée israélienne à Gaza?
Oui, on peut l'imaginer parce que ça a déjà eu lieu. Je rappelle qu'il y a déjà eu 3 conflits entre le Hamas et Israël et à 2 reprises, les Israéliens sont intervenus au sol. Le problème pour Israël, il est d'une part éthique, d'autre part politique.
Oui.
Éthique parce que de toute façon, ça va faire énormément de victimes, tant chez les Palestiniens que chez les soldats israéliens. Et politique parce que Netanyahou, a priori, même s'il est encore Premier ministre, mais un Premier ministre sortant, j'allais presque dire par intérim, il n'a pas nécessairement l'imprimatur, le soutien de la société israélienne après une énième élection qui finalement ne lui a pas permis d'être réellement Premier ministre.
Je vous pose la question parce que sur le terrain, il y a des éléments qui semblent l'indiquer, la mobilisation des réservistes, le déploiement près de l'enclave d'unités d'artillerie, de blindés, d'infanterie. On a le sentiment quand même que l'armée israélienne se prépare.
Elle se prépare, mais est-ce qu'elle se prépare parce que Israël veut montrer ses muscles et sortir de la crise la tête haute et être quelque part le vainqueur, ou en tout cas le co-vainqueur au jour du cessez-le-feu, ou est-ce qu'elle se prépare parce qu'elle va réellement intervenir? Et ça, c'est très difficile à dire aujourd'hui.
Bien. Ce qui est frappant, c'est que cette fois, c'est un conflit aussi 3.0, déclenché par les réseaux sociaux notamment. Tout a commencé visiblement sur TikTok, le réseau social, le 15 avril. Des jeunes arabes de Jérusalem postent une vidéo de leur altercation avec un chef religieux juif dans le tramway. Elle suscite la fureur de certains Israéliens. Et après une seconde agression filmée cette fois à Jaffa, les ultranationalistes juifs défilent porte de Damas à Jérusalem-Est, ce qui entraîne des émeutes palestiniennes. Un rien peut déclencher la guerre à laquelle on assiste aujourd'hui.
Vous avez raison, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que la grande révolte arabe d'Jamin al-Husseini, déjà à Jérusalem en 1936, s'est produite alors que, vous l'imaginez bien, Internet n'existait pas.
Oui.
Et je vous ferai grâce de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Autrement dit, c'est, si vous voulez, les réseaux sociaux et le cyberespace, de manière générale d'ailleurs, accélèrent des mouvements de population, des mouvements d'opinion ici et là, mais fondamentalement, politiquement, ça ne change pas la donne.
On entend qu'en coulisses, l'ONU, le Qatar, l'Égypte et d'autres s'activent pour faciliter une médiation. Ça peut fonctionner?
De toute façon, rien d'autre ne peut fonctionner. C'est-à-dire que l'impulsion de Washington, d'une part, l'impulsion d'un certain nombre d'États arabes qui ont intérêt, je parle des régimes arabes, à maintenir
elle est réelle,
la stabilité.
L'impulsion de américaine de Joe Biden, ou elle paraît timide tout de même?
Alors, elle est timide parce que ce ne sera pas la priorité pour Joe Biden, qui a 3 grandes priorités. Il l'a dit, et on peut le comprendre d'ailleurs. Hein, c'est le nucléaire iranien, qui n'est pas directement lié d'ailleurs à l'affaire palestinienne.
Oui.
C'est bien évidemment la rivalité commerciale avec la Chine et la rivalité politique avec la Russie et le dossier de l'OTAN. Bon, le conflit israélo-palestinien, je le disais tout à l'heure, est perçu à Washington comme ailleurs comme un simple contentieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction, vous l'avez dit, elle est timide, mais je pense que sans l'impulsion, même timide, de Washington, on ne peut pas en sortir.
Oui, le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin a d'ailleurs réaffirmé le soutien des États-Unis au droit d'Israël à se défendre. C'est un peu la rhétorique habituelle américaine là, à laquelle on assiste.
Oui, c'est vrai. Alors, habituelle pré-Trump, parce que Trump n'était absolument pas crédible du tout. Mais il faut bien comprendre que Joe Biden provient de la famille politique la plus favorable à Israël dans l'ensemble du giron politique américain, c'est-à-dire la droite du Parti démocrate. Et que la majorité des citoyens américains, mais également des congressmen, démocrates comme républicains, sont favorables, non pas tant à Netanyahou qu'à Israël de manière générale.
Alors, dernier mot, peut-être, pour en sortir de ce conflit, cette 3e réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui est attendue demain, qu'est-ce qui peut concrètement en sortir, et est-ce que ça marche encore, cette diplomatie-là?
Une exigence de cesser le feu peut en sortir. En tout cas, les 3 fois précédentes, ça a marché. Et je vous dirais que ça a marché à chaque fois qu'il y a eu guerre entre Israël d'une part et 1, 2 ou 3 États arabes d'autre part. Donc j'ai presque envie d'inverser le postulat en vous disant que c'est la seule manière dont on peut réellement en sortir.
Qui est l'interlocuteur des Nations Unies au Hamas? Et comment se font les négociations avec ce groupe qui est qualifié de terroriste?
Alors, question centrale, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que le Hamas n'est pas reconnu par le quartet, hein, qui avait été monté à l'époque par les grandes puissances.
Pour négocier un cessez-le-feu, comment on fait ?
Ah ben on le fait discrètement et on le fait sur le plan strictement technique et militaire. D'ailleurs, je rappelle à vos auditeurs qu'un cessez-le-feu n'est pas un acte de paix, c'est pas un acte politique d'ailleurs de manière générale, c'est un acte militaire. Et c'est provisoire et c'est garanti par pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Hein. Par définition, on cesse le feu. Donc autrement dit, on peut discuter avec le Hamas assez discrètement et surtout sur le plan technique et militaire. Mais sur le plan politique, malheureusement, ça ne résout absolument rien.
Bien, merci Frédéric Ancel pour ces éclairages. Merci à vous.